Ce message a été enregistré en public au Centre évangélique de Saint-Nazaire. Prédicateur, pasteur Alain Ouvrard, toute l'équipe vous souhaite une bonne écoute.
Nous allons ouvrir une page dans notre Bible, dans l'Ancien Testament, si vous voulez bien suivre. Et dans le livre de la Genèse, c'est pas trop difficile, il n'y a pas aucun livre avant. Hein. D'accord ? Enfin, je le donne pour mémoire, tout simplement. Alors, livre de la Genèse, chapitre 29. Et verset 9. Comme il leur parlait encore, survint Rachel avec le troupeau de son père, car elle était bergère. Lorsque Jacob vit Rachel, fille de Laban, frère de sa mère, qui s'appelait Rebecca, et le troupeau de Laban, frère de sa mère, il s'approcha, roula la pierre de dessous l'ouverture du puits et abreuva le troupeau de Laban, frère de sa mère. Et Jacob embrassa Rachel, il éleva la voix et pleura. Jacob apprit à Rachel qu'il était parent de son père, qu'il était fils de Rebecca. Et elle courut l'annoncer à son père. Dès que Laban eut entendu parler de Jacob, fils de sa sœur, il courut au-devant de lui, il l'embrassa et il le fit venir dans sa maison. Jacob raconta à Laban toutes ces choses et Laban lui dit « Certainement, tu es mon os et ma chair. » Jacob demeura un mois chez Laban. Puis Laban dit à Jacob « Parce que tu es mon parent, me serviras-tu pour rien ? Dis-moi quel sera ton salaire. » Or Laban avait deux filles. L'aînée s'appelait Léa et la cadette Rachel. Léa avait les yeux délicats, mais Rachel était belle de taille et belle de figure. Jacob aimait Rachel et il dit « Je te servirai 7 ans pour Rachel, ta fille cadette. » Et Laban dit « J'aime mieux te la donner que de la donner à un autre homme. Reste chez moi. » Quelle histoire que je vais vous raconter ce matin qui ne détonne pas avec les morses d'aujourd'hui. Ça va, vous êtes bien à l'écoute? Alors surtout, hein, ne vous effrayez pas. Parce que quand même, c'est une drôle d'histoire. Eh oui, le monde n'a pas changé. Les hommes sont toujours les mêmes. Mais il y a des leçons à tirer. Certains pourraient dire, de l'extérieur, je suis surpris que sur la couverture de votre Bible, il y a marqué « Sainte Bible ». Ouais, ben, la Bible, elle est sainte. La parole de Dieu, elle est sainte. C'est les hommes qui le sont un peu moins. Et quand ils veulent jouer au saint, eh bien, ça marche pas toujours comme il faut. Alors, on a justement cette histoire particulière qui nous est rappelée. Et je voudrais vous parler de un des personnages qui apparaît, alors naturellement Jacob. Bon, on le connaît, on sait qui il est. Il y a Laban, son beau-père, j'en dirai quelques mots, c'est pas très élogieux. On entend parler de Rebecca, qui passe par-ci par-là dans la lignée de cette famille, parce que c'est une histoire de famille. Et la famille humaine, ou la famille spirituelle, il peut y avoir quelquefois des points de similitude. C'est important, et c'est pour ça que c'est écrit dans notre Bible. Et puis, il y a naturellement Rachel. Mais moi, je voudrais vous parler de Léa. On parle pas beaucoup souvent de Léa, hein. Qu'est-ce que vous en pensez? Et vous allez voir que, malgré tous ses misères et ses problèmes, ben, le regard de Dieu était sur elle. Et on va en parler. Je commencerai par dire Léa, pourquoi pleures-tu ? Ouais, je commencerai par là. Pourquoi pleures-tu ? Parce que peut-être Léa, c'est la mal-aimée. C'est terrible, hein, d'être en désamour, hein, d'avoir finalement, eh bien, cette douleur intérieure qui est liée à l'affect, à ce que l'on peut appeler l'absence de tendresse ou de considération. Et Léa, c'est vraiment la mal-aimée dans tout ce contexte, et elle pleure. Oui, elle pleure, elle a de quoi pleurer, on va le voir. Son nom, enfin son prénom, signifie, veut dire fatigué et lassé. Vous connaissiez, non ? Voilà, fatigué et lassé. Alors quand vous portez un nom comme ça toute la vie, on peut vous dire que vous n'êtes pas trop dynamique. Mais si on manque de dynamisme, nous, humainement parlant, Dieu est capable de nous donner la dynamique de l'esprit, hein. Alors, ça veut dire fatigué, lassé. On l'a lu tout à l'heure, c'est la fille aînée de Laban, le frère de Rebecca, Jacob, et donc son neveu. Alors, j'essaie de remettre ça un peu en place, parce que quand on regarde la généalogie, c'est quelquefois un peu compliqué, hein. Et d'ailleurs, je vous en profite pour vous dire, régalez-vous avec le livre des nombres et les généalogies, hein, dans la Bible. Vous allez voir que vous allez passer un bon moment, hein. Bon, je dis ça comme ça. Donc, on a dit que c'était la fille aînée de Laban, et ce fameux Laban dont il nous est parlé a deux filles. La seconde s'appelle Rachel. Ah oui, donc la première s'appelle Léa, c'est évident. Léa présente une infirmité qui n'est pas nommément désignée comme on pourrait le faire aujourd'hui en termes médicaux, mais elle présente une infirmité. On pourrait peut-être dire une disgrâce de nature. Certains ont pensé qu'elle souffrait d'un strabisme au niveau des yeux, hein. Un strabisme. Et d'autres traductions nous disent, enfin celle-ci en tous les cas, qu'elle avait les yeux délicats. Qu'est-ce que ça veut dire d'avoir les yeux délicats ? On peut se poser des questions. Ça pourrait se traduire par d'autres commentateurs de la Bible, par une vue faible. Donc elle avait quand même un problème visuel particulier où elle avait du mal à discerner les choses. Aujourd'hui, eh bien, ce serait là remis en place par des verres correcteurs, des lunettes, hein, les uns et les autres, on sait ce que c'est. Dans son temps, c'était autre chose. D'autres traduiront, elle avait une mine chétive. Une mine chétive, c'est toujours le visage, hein. Alors, bon, en tous les cas, on va se fier à ce qu'il nous est simplement dit, qu'elle avait les yeux délicats, tout simplement, point final. Alors, tout le monde la connaissait comme ça. Mais elle, comment vivait-elle son infirmité ? Parce que c'est ça la question. Certains, devant l'infirmité, sont méchants. Et ils critiquent. Ah oui, elle est comme ça. Il est comme ça. Alors ça, c'est de la méchanceté pure et simple. Ou de la bêtise. Et puis il y en a d'autres qui la connaissent comme ça, mais qui lui manifestent de la tendresse. Et puis, il y en a d'autres qui ne font pas trop de cas. Mais pour elle, comment le vit-elle ? On a tous quelque chose, on a tous des défauts, hein, à un moment ou à un autre, hein, que ce soit physique, psychologique ou des choses comme ça. Alors, on évite de... Quand c'est physique, on peut pas le cacher. Enfin, à moins que, quelquefois, ça peut être dissimulé. Mais toujours est-il que, moral, on peut toujours ne pas le montrer. Donc, l'histoire, et je vais un peu plus loin, l'histoire nous rapporte que Jacob était amoureux de Rachel. Ah, ça, c'est une belle chose, hein, d'être amoureux. C'est vrai ? Je vois que vous êtes enthousiasmé par le propos. Amoureux, c'est formidable. C'est vrai, c'est beau. C'est magnifique. Donc, il était amoureux de Rachel. La parole de Dieu sous-entend qu'il avait eu un coup de foudre dès le premier jour. Terrassé, pauvre Jacob. Mort. Quand il avait vu sa cousine. Rachel, ouais, parce que il se souvenait, quand il avait quitté, et on parlera des circonstances pourquoi il avait quitté la maison de son père et de sa mère, vous en souvenez un petit peu, hein, vous vous souvenez un peu de ce qui s'est passé, et son père lui avait dit en le bénissant, je ne veux pas que tu te maries avec les filles de ce pays-là, en pays de Canaan, mais va maintenant dans la maison de ton oncle, chez Laban, et prends une fille qui sera, eh bien, finalement de sa maison à lui. » C'était un bon conseil. On va voir comment ça tournait. Donc, il se souvenait de ça, et quand il a vu Rachel, oh, ça l'a complètement ébloui. Hein. Ouais, c'est bien. Rachel, ça veut dire brebis. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de douceur. C'est beau, ça, brebis. Et le passage nous dit qu'elle était belle de taille et une beauté éblouissante. Vous avez remarqué que la Bible, quand elle nous parle de certaines femmes, elle nous les présente comme bah, comme Sarah, comme Rebecca. C'est vrai, vraiment une grâce, en quelque sorte. Alors, au bout d'un certain temps, et très rapidement, Jacob va demander au père, tout simplement, de Rachel, de l'épouser. Ah, ça c'est quelque chose, hein, de venir voir le beau-père et de lui dire « Je vous demande la main de votre fille ». Moi, je me souviens comment ça s'est passé. J'ai attendu que mon beau-père était au lit et qu'il était malade. Vrai ou faux, madame ? Vrai, il avait la fièvre. Il pouvait pas faire le culte, c'était un dimanche matin. Je me dis « C'est le moment de profiter de l'occasion ». Et vous savez ce qui s'est passé? C'est que je lui ai demandé ma main, il me l'a donnée tout entière, sa fille. Je suis vraiment pas sérieux, hein. Non, mais on a quand même quelques souvenirs. Hein. Bon. Alors, il est venu lui demander sa main, et là, je dois vous avouer que c'est le début d'un drame familial aux 1000 rebondissements. Parce que vous connaissez un peu l'histoire, ce qui s'est passé. 1000 rebondissements. D'abord, Laban, il faut le dire, c'est un homme qui est faux. Un homme vénal. Il aime l'argent. Il est double. Et puis, il s'entend bien à faire des combines. Il est manœuvrier. C'est-à-dire qu'il arrange ceci, il arrange cela. Il ne se casse pas trop la tête pour savoir si ça plaît ou si ça plaît pas. Mais quand il met la main sur quelqu'un, homme ou femme, il s'arrange que pour en avoir que le bénéfice et le profit. Donc on appelle ça un manœuvrier. C'est pas quelqu'un d'intéressant, hein, Laban. Hein. Pas quelqu'un d'intéressant. Et puis, nous voyons qu'en fond de scène, lorsque nous considérons un peu le texte, eh bien, ce mélodrame qui se joue là, à ce moment-là, il faut le remettre dans la culture d'alors, c'est-à-dire que c'est une culture antique et païenne. Et il apparaît, et ça vous a pas échappé ce matin, que les règles, finalement, qui prévalent dans ce monde-là, dans ce pays-là, dans la maison de Laban, c'est la polygamie. Il y a une loi en France, comme dans tous les pays d'Europe, où il n'y a qu'une reconnaissance, c'est la monogamie. D'accord? Et c'est la polygamie, c'est-à-dire que, bon, c'est pas forcément très, très avantageux. Enfin, en tous les cas, c'est, moralement, c'est pas très élevé, hein, c'est vraiment basique. Donc, voilà. Et cette polygamie est en quelque sorte, si vous permettez, parce qu'il faut bien comprendre le texte, hein, c'est une sorte de marché de dupes. À qui mieux trompera l'autre ? À quelques étages que ce soit, vous comprenez ? Et c'est ainsi que nous entrons dans l'histoire du texte. Alors aujourd'hui, naturellement, je vous l'ai dit, il y a des lois. Mais ça n'empêche pas que finalement, si on donne pas le nom de polygamie, ça n'empêche pas que le monde n'est pas meilleur aujourd'hui qu'il ne l'était hier. Ça, c'est vrai. On le reconnaît et on sait ce que ça vaut. Dans ce drame, dans ce mauvais jeu, il faut reconnaître tout de suite que Léa, oui, va être la victime innocente de toute cette situation. Elle va être prisonnière des coutumes de son époque et de la cupidité de son père. Je voudrais simplement dire aux jeunes filles qui sont là au milieu de nous ce matin, que vous avez de la chance de vivre dans notre temps. Oui, vous connaissez pas votre bonheur. Parce que même il y a encore 50 ans, 100 ans, même dans notre pays, hein, après la Révolution française, que finalement, eh bien, les femmes, et particulièrement les filles, les jeunes filles, n'avait pas le droit de ceci, n'avait pas le droit de cela, etc., etc. Et puis, c'était papa qui mariait, hein. Et souvent, un petit peu dans la même veine, et la même chose que de l'histoire dans l'Antiquité, hein. C'était souvent des intérêts, c'était à caractère vénal, en disant voilà, des parties. D'ailleurs, je ne sais pas, mais vous savez, tous nos rois de France, c'était ceux qui étaient le moins français. Ben oui, avec l'Empire d'Autriche, avec la Prusse, avec l'Espagne, avec tout ceci et cela. Et c'était le premier des Français, mais c'était peut-être le dernier des Français au niveau du sang. Et on disait qu'ils avaient le sang bleu. C'est quand même curieux tout ça. Mais ça, c'est le monde. C'est le monde, c'est terrible. Hein. Et la pauvre, finalement, eh bien, le père, finalement, faisait ce qu'il voulait. Hein. Voilà, toi, tu vas te marier avec l'un, ceci. S'il y avait de l'amour, ça tombait bien. Mais le plus souvent, c'est qu'il n'y en avait pas. Hein. Hein, on mariait les jeunes filles avec des hommes qui étaient tout âgés, prêts de mourir comme ça. Ça allait revenir, vous comprenez? Bon, ça va. Bon. Et elle va vivre, la pauvre Rachel, une tragédie. En raison du contexte, en raison des mœurs, en raison de tout ce qui se passe, en raison des lois qui ont été établies, qui étaient des lois patriarcales. On parle pas de nationales, encore moins de régionales, mais c'était comme ça. Hein. Et elle vit une tragédie intime et affective. Parce que bon, le Seigneur nous a créés pour que nous puissions avoir du bonheur quand même. Hein. Je le dis au passage, mais c'est quand même ça. Et elle était avec un problème, on l'a dit, elle était infirme visuellement. C'est-à-dire qu'elle avait les yeux délicats, on le rappelle. Et elle pouvait avoir le sentiment d'avoir été trahie, d'avoir été vendue, d'avoir été rejetée. Et quelque part, écartelée à l'intérieur d'elle-même de ne pas avoir été le premier choix de son mari qui s'appelle Jacob, en considérant que là où nous en sommes, elle est mariée. Mais que finalement, Jacob ne l'aime pas. Il aime Rachel. Il n'aime pas Léa. Comment en est-elle arrivée là, Rachel ? Pas Rachel, mais Léa, excusez-moi. Comment en est-elle arrivée là ? Et c'est là où c'est quand même assez scabreux comme histoire. Moi, quelquefois, c'est vrai que j'ai hésité, je me dis, je raconte l'histoire. Puis bon, je dis, je la raconte quand même, parce qu'elle est dans la Bible. Mais bon, elle n'est pas faite pour raconter des histoires, elle est faite pour nous interpeller nous-mêmes personnellement. Hein, pour nous interpeller. Alors, on en est là aujourd'hui, et elle est mariée, mais de quelle façon est-elle mariée ? On va le lire à travers le verset 20 jusqu'au verset 31. Et là, on va déjà avoir une petite idée de la manière dont son père l'a mariée. Elle n'a rien demandé. Elle avait déjà un complexe d'infériorité physiquement. Et puis en plus, le cœur de son mari, il est véritablement là pour Rachel, mais pas pour elle. Et pourtant, elle est mariée. Des situations, vous savez, qui sont folles, hein, quelquefois. Hein. C'est fou, hein. On ne tient pas compte véritablement de la sensibilité et de la personnalité des gens, hein, quand c'est comme ça. Alors on va le dire. Ainsi Jacob servit 7 années pour Rachel. Pas mal. Et elles furent à ses yeux comme quelques jours parce qu'il l'aimait. C'est vrai, quand on aime, hein, on ne compte pas. Vous connaissez la publicité, hein. Et c'est vrai que c'est facile quand on aime, mais quand on n'aime pas, c'est dur. Et moi, je reviens, je fais une parenthèse, hein, qui n'a rien à voir avec le texte. Mais vous savez, la loi, elle ne parle pas d'amour, elle parle de devoir. L'évangile nous parle d'amour, et c'est facile de vivre l'évangile, alors qu'il est difficile de vivre la loi. Si on peut faire la comparaison comme ça. Enfin, je passe. Ensuite, Jacob dit à Laban, « Donne-moi ma femme, après 7 ans d'attente. » Ouh, c'est pas mal, hein. « Donne-moi ma femme, car mon temps est accompli, et j'irai vers elle. » Laban réunit tous les gens du lieu et fit un festin. Le soir, il prit Léa, sa fille, et l'emmena vers Jacob, j'ai honte de dire ça, hein, qui s'approcha d'elle et Laban donna pour servante à Léa, sa fille, Zilpa, sa servante, parce que toutes les filles de maison avaient une servante. C'étaient toutes des jeunes filles. Le lendemain matin, voilà que c'était Léa. Alors Jacob dit à Laban, « Qu'est-ce que tu m'as fait ?» Il n'est pas content, hein. « N'est-ce pas pour Rachel que j'ai servi chez toi ? Pourquoi m'as-tu trompé ?» Laban dit, « Ce n'est point la coutume dans ce lieu de donner la cadette avant l'aîné. » Ça fait comme les promotions commerciales, hein. Vous en avez un, puis le deuxième est gratuit. Achève cette semaine avec celle-ci, et nous te donnerons aussi l'autre pour le servir pour le service que tu feras encore chez moi pendant cette nouvelle année. Les dents. Jacob fit ainsi, parce qu'il aimait Rachel. Il n'aimait toujours pas Léa. Puis Laban lui donna pour femme Rachel, sa fille. Et Laban donna pour servante à Rachel, sa fille Bila, sa servante. Jacob alla aussi vers Rachel, qu'il aimait plus que Léa, et il servit encore chez Laban pendant 7 nouvelles années. On en est déjà à 14 là, hein? C'est pas fini. L'Éternel vit que Léa n'était pas aimée, et il la rendit féconde, tandis que Rachel était stérile. Ah! Ça, c'est intéressant. Si je dois donner un qualificatif, je parlerai de sordide imposture. Je juge non pas les gens, mais je juge une situation et un état. Une sordide imposture qui est le produit du subterfuge de Laban, le père. La fête nuptiale a lieu, on se prépare finalement à marier Jacob et Léa au départ. Jacob et Rachel. Excusez-moi, parce que je me trompe, hein, la famille est grande. Donc, on pense que c'est comme ça que ça va se passer, Jacob et Rachel, et voilà que Laban remplace Rachel par Léa. Les jeunes filles, quand elles se mariaient à cette époque, mais elles portent toujours encore un voile aujourd'hui, peut-être différemment, hein, c'est vrai que ça n'a pas changé, eh bien portaient un voile pratiquement intégral. Et au moment de la rencontre du mari et de sa jeune épouse, ils arrivaient, elles en tous les cas, les filles arrivaient, la fille arrivait voilée. Et puis, ça se faisait naturellement, et bien là, le soir, enfin, d'une manière tout à fait discrète. Et c'est ainsi que les choses se sont passées. Et la mariée n'est pas la mariée choisie à ce moment-là. Imaginez-vous la tête de Jacob le lendemain matin. C'est pas la mariée choisie, c'est sa sœur. Et sa sœur, c'est Léa. Et on va donner une explication. Il n'est pas de coutume de marier la cadette avant l'aînée. D'accord. Mais pas avec le même homme. Bah oui. On peut comprendre. Et c'est une situation d'arrangement honteuse. Et il en ressort que tout se met en place pour une union mixte, plurielle, scandaleuse. Si j'ai bien fait les comptes, j'ai pas pris ma calculette parce que c'est pas trop difficile, ça commence avec 2. Au petit matin, ils sont 3. Enfin, virtuellement. Et encore 2 autres. Ça fait un mariage à 5. Qu'est-ce que vous en pensez? Eh oui, si j'ai bien compris, puisque chacune des 2 avait leur servante. Et c'est comme ça que va se constituer les 12 tribus d'Israël. Alors, on va y revenir. Il y a Jacob, il y a Léa, qui normalement ne devrait pas être là, la pauvre. Il y a Rachel, il y a Bila, et il y a Zilpa. Ça fait une belle famille, hein. Et vous allez voir l'avenir. Pauvre Léa, la mal-aimée, et elle va l'être pour longtemps, qui ne pouvait rien dire, et encore moins se plaindre, parce que c'était comme ça. Et elle est emmurée dans son silence, le silence des injustices et des indignités des hommes. Quelquefois, on fait des lois, mais je peux vous dire que quelquefois, ça va pas forcément dans le sens où ça rend heureux ceux auxquels on les applique. Et là, on est en train, Laban est en train d'ouvrir la boîte de Pandore. Vous savez ce que c'est en mythologie, la boîte de Pandore? C'est la boîte de tous les maux. Vous ouvrez le couvercle et là, toutes les malheurs, tous les drames de l'humanité sortent. Boîte de Pandore, on appelle ça comme ça. Et il va y avoir, pendant des années, la zizanie. Ouais, des querelles, des perpétuels affrontements, du mépris, toutes sortes de choses où la vie familiale va être empoisonnée. On ne peut pas dire autre chose. Dieu promet la paix. Il veut l'union, la sérénité. Et là, une fois que la boîte est ouverte, ah ben c'est terrible. Alors Léa, moi je dis dans le texte, alors Léa, tu as de quoi pleurer. Ouais, tu as de quoi pleurer Léa. Peut-être qu'il y a des Léas au milieu de nous hein, ce matin. Je sais pas. Mais moi j'ai eu à cœur d'apporter ce message. Peut-être que dans les dimanches qui viendront, on parlera de Rachel. Ça vaut la peine. Hein. Mais moi c'était ce que j'avais sur le cœur, Léa. C'est la première fois d'ailleurs que je fais ce message. Alors, tu as raison de pleurer. Mais moi il y a une question qui vient ensuite. Et Dieu dans tout ça? Parce que jusqu'ici, on n'a pas trop entendu parler. Hein. C'est une histoire d'homme. Une histoire d'un jeune homme qui part dans un pays étranger. Tiens, ça ressemble à l'histoire du fils prodigue un peu. Hein. Ouais. Mais Dieu dans tout ça, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, on va faire la lecture de quatre versiers suivants. Chapitre 29, versets 31 à 35. L'Éternel vit que Léa n'était pas aimée, il la rendit féconde, Dieu fait quelque chose là, tandis que Rachel était stérile. Léa devint enceinte et elle enfanta un fils à qui elle donna le nom de Ruben. Ruben, ça veut dire un fils, et dans ces pays-là, un fils. Je ne veux pas dire le contraire. Hein. Ouais. Un fils, elle est contente, elle est heureuse, c'est son premier bonheur. À qui elle donna le nom de Ruben, car elle dit, l'Éternel a vu mon humiliation et maintenant mon mari m'aimera. Eh oui, mais c'est pas garanti, hein. Non. Quelquefois, ça fait le contraire dans les couples. Hein. Voilà. Elle devint encore enceinte et enfanta un fils et elle dit, l'Éternel a entendu que je n'étais pas aimée. C'est un leitmotiv chez elle. Je ne suis pas aimée. Alors, qu'elle n'était pas aimée. Et m'a aussi accordé celui-ci, et lui donna le don de Siméon. Siméon, ça veut dire entendre et exaucer. C'est bien. Elle devint encore enceinte et enfanta un fils, et elle dit, pour cette fois, mon mari s'attachera à moi. C'était question d'amour avant, maintenant c'est une question d'attachement. Car je lui ai enfanté trois fils. Elle est contente. C'est pourquoi on lui donna le nom de Lévi. Lévi, ça veut dire attaché, ça veut dire joint. Elle devint encore enceinte et enfanta un fils et lui dit, cette fois je louerai l'Éternel, c'est pourquoi elle lui donna le nom de Judas. Retenez bien, Judas, ça veut dire louange de l'Éternel, on en reparlera. Et à ce moment-là, elle cessa d'enfanter. Quelle histoire! On va lire un peu plus loin si vous voulez. Chapitre 30, versets 9 et 13, on va rester sur l'histoire de Léa. Léa, voyant qu'elle avait cessé d'enfanter, prit Zilpa, sa servante, et la donna pour femme à Jacob. Zilpa, servante de Léa, enfanta un fils à Jacob. Léa dit, quel bonheur! Et elle appela du nom de Gad. Gad, ça veut dire bonheur. Zilpa, servante de Léa, enfanta un second fils à Jacob. Léa dit, que je suis heureuse, car les filles me diront heureuse, et elles l'appelons du nom d'Aser. Aser, ça veut dire heureux. On voit que ça va en crescendo, hein. L'amour, attachement, et ensuite elle commence à remonter un petit peu la pente dans tout ça, hein. Elle commence à vivre un peu ce que le Seigneur est en train de lui préparer. Et puis maintenant, nous allons Passer au verset 17. Dieu exauça Léa, elle devint enceinte et enfanta un cinquième fils à Jacob. Léa dit, Dieu m'a donné mon salaire parce que j'ai donné ma servante à mon mari et l'appelons du nom d'Issachar. Issachar, ça veut dire tout simplement que je le retrouve. Récompense. Ça veut dire récompense. Je suis en train de chercher en même temps, hein. C'est pour ça que je prends mon... Voilà, récompense. Léa devint encore enceinte et elle enfanta un sixième fils à Jacob. Léa dit, Dieu m'a fait un beau don, cette fois mon mari habitera avec moi. Quand vous voyez le découpage et la progression, le crescendo, on pourrait dire. Il habitera donc avec moi. Il l'appelait Zabulon. Zabulon, ça veut dire habitation. Ensuite, elle enfanta une fille. Elle l'appela du nom de Dina. Je vous dis pas l'histoire de Dina, vous la connaissez, d'accord? Vous la retrouverez dans la Bible. Là, c'est finalement l'histoire de Dina. Ce n'est que le produit, le fruit amer, et le fruit d'une éducation complètement décrantée. On peut dire ça comme ça. On a dit tout à l'heure, mais qu'est-ce que fait Dieu? Qu'est-ce que fait Dieu? Où est-il dans cette affaire? Léa est féconde et Rachel est stérile. Léa a le bonheur d'enfanter tandis que Rachel se consume dans les jalousies, dans les frustrations et dans toutes sortes de rancœurs contre sa sœur. Elles sont sœurs, elles sont du même sang, elles font partie de la même famille. Le brave Laban, il sait pas ce qu'il a fait, hein. Mais je vous ai dit que c'était un mauvais. Parce que quand même, quand on aime ses enfants, on fait en sorte qu'ils soient heureux. Ils sont pas toujours, comme nous voudrions, mais néanmoins, la dignité des parents, c'est de donner ce qu'il faut aux enfants. C'est pas toujours facile, hein. J'en conviens. Alors, on voit les deux situations. L'une est aimée passionnément de son mari, l'autre est méprisée par son mari. Il y a une bénédiction pour celle qui est méprisée, et puis pour Rachel, elle, au lieu d'attendre en patience comme Anne, vous connaissez Anne, la mère de Samuel, elle va tourner vinaigre à l'intérieur d'elle-même, elle va devenir mauvaise. Il va y avoir des jalousies, il va y avoir de l'aigreur, il va y avoir toutes sortes de choses. Et ça, c'est pas très bon. Et cette frustration, de Rachel, on la voit au chapitre 30, on revient au verset 1er. Chapitre 30, verset 1er, on va le lire. C'est bien de faire des comparaisons comme ça, hein. Je vais doucement parce qu'il faut que je me retrouve dans tous ces textes. C'est pour ça, excusez-moi, hein. Lorsque Rachel vit qu'elle ne donnait point d'enfant à Jacob, elle porta envie à sa sœur. C'est un euphémisme parce que ça va beaucoup plus loin que ça. Et elle dit à Jacob, « Donne-moi des enfants ou je meurs !» La colère de Jacob s'enflamma contre Rachel. Il l'aimait, mais là, il se met en colère. Et il lui dit, « Suis-je à la place de Dieu qui t'empêche d'être féconde ?» Elle dit, « Voici ma servante Bila, va vers elle, et qu'elle enfante sur mes genoux, et que par elle, j'ai aussi des fils. » Et elle lui donna pour femme Bila, sa servante, et Jacob alla vers elle. Jacob, je sais pas comment il vit la chose. Rachel dit, Dieu m'a rendu justice, et il a entendu ma voix, il m'a donné un fils. C'est un peu la réponse du berger à la bergère, à sa sœur, hein, vous comprenez, hein. Il m'a donné, c'est pourquoi elle l'appela du nom de Dan. Alors Dan, ça veut dire, juger, rendre justice. Donc, il y a quand même derrière, et on va en reparler tout à l'heure. Quand même un petit pic, hein, quelque part, ce qui passe, hein, voilà. Bila, servante de Rachel, devint encore enceinte, et elle enfanta un second fils à Jacob. Rachel dit, j'ai lutté divinement, charnellement, divinement contre ma sœur, et j'ai vaincu. Elle l'appela du nom de Nephtali. Nephtali, ça veut dire, luttant. Donc, c'est le combat d'un côté, Et puis de l'autre côté, on voit que ça monte de, hein, vraiment vers quelque chose. Léa, voyant qu'elle avait cessé d'enfanter, bon, on l'a vu naturellement. Donc on en est là, Nephtali. À l'évidence, le bonheur n'est pas dans le pré. À Padamaram, je vois que vous avez une culture télévisuelle très développée. Le bonheur n'est pas dans le pré de Laban. Hein? Ça, c'est le moins qu'on puisse dire. Pendant que les deux sœurs s'épuisent, pendant qu'elles s'épuisent en rivalité incessante, l'une, l'autre, tu me fais ci, je te fais ça, etc., etc., à travers des ingéniosités, la culture du mal qui passe dans la tête et qu'est-ce que je pourrais lui faire pour lui faire un croche-pied, ingéniosité basse et méchante, Jacob, lui, on va dire deux mots quand même, hein, Jacob, lui, est bel et bien esclave, il est esclave à la solde de son beau-père, Laban. Et on va faire le décompte. Lequel, Laban, utilise son gendre à des fins de servitude ignoble. Et on fait le décompte. 7 ans pour Rachel, et c'est pas Rachel, c'est Léa. Maintenant, quand il veut Rachel, lui, tu travailles encore 7 ans pour moi. Et puis après, il va travailler 7 ans pour le troupeau de Laban. C'est salé le salaire, hein. Surtout quand on sait que le mot salaire, ça vient du mot sel. C'est salé, hein. Ça fait combien ça? 7, 7, 7, 3 fois 7? 21 ans! Et il n'y avait pas de syndicat à ce moment-là, il n'y avait pas la CGT et puis là. Eh oui, dites donc. Mais pourquoi ça lui est arrivé à Jacob? Comprenez bien. Parce que vous savez, Dieu voit tout, il sait tout. Et il n'oublie rien, non pas que Dieu pardonne les péchés quand on les avoue. Mais quand on les avoue pas, quand on ne les confesse pas, on est en train de se préparer un salaire. Dieu pardonne immédiatement lorsque quelqu'un fait comme on en a vu dans la Bible, j'irai vers mon père, je lui demanderai pardon, je ne suis plus digne d'être... Alors à ce moment-là, le pardon, il est immédiat, il est tout de suite. Mais Jacob, il avait vraiment pas envie de demander pardon pour ses péchés d'avant-hier. Je dis bien d'avant-hier. Vous rendez compte, 21 ans, pour les beaux yeux de Rachel, mais pas pour ceux de Léa. On comprend. Mais il ne faut pas oublier ceci, et ça c'est une instruction pour l'Église d'aujourd'hui, mes frères et sœurs. Et je voudrais préciser une chose, c'est quand on confesse ses péchés, ils sont pardonnés immédiatement, Dieu ne s'en souvient plus, il jette nos péchés au fond de la mer. C'est fini, on est pardonné, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Et nous pouvons vivre sereinement et heureux. D'accord? Mais le cas de Jacob, c'est un cas. Parce qu'il ne faut pas l'oublier. Pour nous dire qu'on porte tôt ou tard la peine des fautes et des erreurs que nous commettons dans notre vie. Quand on ne se repent pas, quand on ne reconnaît pas, quand on ne veut pas finalement régler les problèmes. Même quand on croit que c'est fini, parce que pour nous on se dit c'est fini, bon c'est l'histoire ancienne, les fautes de jeunesse, etc., etc., etc. La repentance est une voie royale pour que Dieu oublie nos péchés, alors profitons-en, parce que quelqu'un a payé le prix pour ça. Alors souvenir, on va voir. Car Dieu est juste, oui, Dieu reste juste, parce que quand on souffle le vent, on récolte la tempête. Et c'était vraiment le problème de Jacob. Connaissez-la? Ah oui, il aimait bien les biquettes. Quand elles étaient dépouillées. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Parce que jouer avec le feu risque le retour de flamme. Et c'est ce qui va lui arriver. 7 ans. Jacob, je m'adresse à lui là maintenant. Souviens-toi. Oui, souviens-toi, Jacob. Tu es à Padamaram. Tu as un beau-père excellent, il est gentil avec toi. Tu as une femme que tu aimes, la belle Rachel. Par contre, tu en as 3 autres. Tu les as pas choisis, mais c'est comme ça. Voilà. Souviens-toi, qu'as-tu fait à ton père Isaac un jour? Qu'est-ce que tu lui as fait à ton père Isaac? Ouais, le grand patriarche qui était un homme pénible, paisible, pardon, qui était un homme paisible et qui, à la fin de sa vie, finalement, avait les yeux qui étaient lourds et il voyait plus grand-chose. C'est comme ça qu'il s'est fait tromper par Jacob. Eh oui, profiter de la déficience et de la faiblesse des autres pour tromper. Qu'as-tu fait à ton père? Toi qui as traversé, qui as travesti, pour une bénédiction volée, parce que tu voulais à tout prix la bénédiction, que ce soit pas ton frère qui soit béni, mais que ce soit toi. Tu as eu l'imagination, aidée par ta mère Rebecca, finalement, eh bien là, de te mettre des poils de chèvre sur les mains, et puis de sentir la chèvre, parce que c'est ça aussi, hein, et de venir chercher la bénédiction pour tromper, pour induire en erreur ton père qui t'a béni, parce qu'il a cru que c'était... Comment il s'appelait? Ézo? Ah oui. Tu te souviens pas de ça? Et le drame que ça a été? Il a fallu que, devant la colère et la fureur de ton frère Ézo, tu fuis précipitamment pour venir justement à Padan Aram, où là ton père t'a dit, Isaac t'a dit, bah, prends une femme de ce pays-là, ne prends pas du pays Canaan. Ah bah bien sûr, les affaires. Vous savez, on ne peut pas, une vie de chrétien ne peut pas se fonder et fonctionner sur le mensonge. Ça paraît pas une petite histoire, hein. Il y a quand même des principes bibliques, hein, derrière. Ça ne peut pas marcher, mes frères et sœurs. Il faut régler les problèmes. Le Seigneur attend peut-être que nous réglions les problèmes. Il faut le faire. Et une fois qu'on est fait, on est soulagé. C'est un soulagement, on vit mieux. Tout le monde vit mieux. Parce que quand on vit dans cet état, quelque part on se met soi-même en prison. Jésus nous parle du pardon, hein, entre autres. Alors Jacob est un trompeur qui aujourd'hui est trompé. C'est l'histoire de l'arroseur arrosé. Oui. Et ce qui lui fait mal, le plus mal possible, c'est une question d'amour. Parce que vous savez, on peut avoir une jambe en moins, on peut attraper un accident, on peut avoir la peste et le choléra, etc., etc. Bon, c'est déjà quelque chose. Mais les plus grandes douleurs qu'un homme puisse avoir, c'est la douleur du sentiment, c'est la douleur de l'amour, de l'affect. Ah ouais, ça vous bousille, hein, excusez-moi l'expression, hein, je suis un peu trivial, mais ça vous met vraiment votre vie en l'air. Ça, c'est pas possible autrement. Et ce qui fait mal à Jacob dans cette affaire, c'est son amour pour Rachel. Un amour qui était tronqué, un amour qui était souillé. Et c'est le prix douloureux du mensonge. Qu'est-ce qu'on peut faire? Ah, si j'avais su. J'aurais terminé avec Léa et ses enfants maintenant. On les a vus, on a vu les noms. Chaque nom qu'elle donne à la naissance de ses fils a une signification qui évoque sa rivalité ou la rivalité entre les deux sœurs. Ouais. Et à un moment donné, ça va être un contentement pour Léa et ça va être quelque chose de pas possible pour sa sœur. On est compte d'une même famille, d'un même sang, de pas s'entendre. On est tous issus d'un père et d'une mère. Et puis après, bien, tant qu'on est enfant, adolescent, jeune, on est encore dans le milieu familial. Mais après, on construit notre maison. Alors que on ne soit pas les uns chez les autres, nous, les enfants de nos parents, c'est normal. On construit notre vie. Et puis voilà, c'est le chemin de toute la terre. Maintenant, de ne pas se parler entre frères et sœurs, c'est pas normal. Ouais. Ah, vous allez me dire, oui, mais bon, c'est pas possible. Il y a des cas, il faut les observer. C'est du cas par cas, naturellement. Hein, on ne va pas radicaliser en disant, tu dois. Non. Mais en tous les cas, nous avons une aide si nous tenons devant le Seigneur, parce que lui, il est capable de changer les circonstances. Ouais. Et ça, c'est vrai pour une église qui est la famille de Dieu, dans le corps de Christ. Moi, je voudrais le dire, on va prendre la Sainte Cène tout à l'heure. Comme tous les dimanches. Ne la prenons pas par habitude, mais intimement. Les autres n'ont pas besoin de le savoir. De dire, Seigneur, moi je t'apporte mon problème qui me ronge, qui me mange, qui me détruit. Et le repas de Sainte-Cène, je veux que ce soit une bénédiction et pas le contraire. Et que s'il y a véritablement des choses à réparer entre nous, il faut que ça soit fait. Prenez une décision et à ce moment-là, vous réglez le problème. Et vous allez voir que ça va tout changer. Parce que quand il y a dans une église, et moi je vous le dis en tant que pasteur, quand il y a trop d'histoires, eh bien, faut pas se faire d'illusions. On peut faire la plus belle évangélisation, on peut faire des prospectus, on peut faire n'importe quoi, on pourra faire venir le plus grand des prédicateurs évangélistes. Dieu n'enverra pas sa bénédiction. C'est dans l'amour. c'est dans la paix et la sérénité entre nous. Et le repas de Sainte-Cène est là pour nous le rappeler ce soir. On a souvent mis la barrière en disant « Ah oui, mais les péchés de la chair, vous voyez ce que je veux dire, la sensualité, la sexualité, tout ça, il n'y a pas que ça, hein, pas faire d'illusion. Hein. » Moi, je dis le manque d'amour, le manque de communion avec et de défaut de pardon, de ceci et cela, c'est pire encore que les problèmes sensuels devant Dieu. Parce que les problèmes sensuels, ils nous concernent nous personnellement. Mais là, c'est l'Église que ça concerne, entre nous. Eh oui, nous voyons que les choses dans les noms des fils sont véritablement évocateurs. Mais il y en a deux. Il y en a deux. Deux fils, l'un s'appelle Lévi. Et je l'ai dit tout à l'heure, ça veut dire attaché à. Et de Lévi viendra le sacerdoce lévitique, c'est-à-dire la relation du peuple d'Israël, sacerdotalement parlant, cultuellement parlant, la relation du peuple d'Israël avec son Dieu, le Dieu d'Israël. Donc Lévi. Et puis le deuxième, Judas. Et je dirais surtout Judas, ça veut dire louange, adoration à l'Éternel. C'est l'ancêtre du peuple élu et ancêtre de Jésus-Christ. Les Juifs, Judas, Juif a donné, les autres tribus, c'est autre chose. C'est la tribu, c'est le peuple d'Israël, mais c'est pas tout à fait la même chose. Donc, Judas, louange de l'Éternel, ancêtre de Jésus, qui est le Sauveur, où là nous pouvons dire, tout est accompli. Tout est accompli. Ainsi Dieu va chercher dans les tréfonds des misères morales humaines, des péchés des hommes, des moyens de changer le mal en bien. Quelle histoire ! Quelle histoire ! Changer le mal en bien. Et puis moi je voudrais terminer maintenant pour tous ceux qui sont mal aimés, hommes ou femmes. On a le type de Léa devant nous. Et je voudrais vous laisser un message, parce que c'est vraiment pour cela que j'ai fait ce message ce matin. Je voudrais, avant mon départ, que vous puissiez véritablement vivre quelque chose. Et j'ai toujours eu à cœur certaines souffrances morales dans le peuple de Dieu. Souffrances physiques, naturellement, parce que je crois à la guérison divine comme la voie royale de Dieu pour guérir les malades. Mais il y a quelquefois des infirmités à l'intérieur qui ne se voient pas, qui est dans le plus grand secret des vies et des personnalités. Et moi, je compatis avec Léa. Je compatis avec Anne. Je compatis avec toutes ces femmes, d'une manière ou d'une autre, ou ces hommes, hein, qui, étaient des mal-aimés quelque part. Mal-aimés d'aujourd'hui. Mal-aimés d'hier. Et je voudrais vous dédier, si vous permettez, je fais pas grand chose, mais vous dédier cette parole dans Ésaïe, qui m'est venu finalement à la suite de ce message. Ésaïe 54, on va le lire si vous voulez bien. Ésaïe 54, on va en lire une partie. Au chapitre 54, verset 4, écoutez bien. Imprégnons-nous de ces paroles et laissons-les agir par le Saint-Esprit maintenant. Le Saint-Esprit est au milieu de nous. Ne crains pas, car tu ne seras point confondu. Merci Léa, merci Seigneur pour Léa. Ne rougis pas, car tu ne seras pas déshonoré. Mais tu oublieras la honte de ta jeunesse, et tu ne te souviendras plus de l'opprobre de ton veuvage. Car ton Créateur est ton époux, et c'est un époux qui aime, pas à la manière de Jacob, mais un amour agapé. L'Éternel des armées est son nom. Et ton Rédempteur est le Saint d'Israël. Il se nomme Dieu de toute la terre. Et c'est vrai pour les Juifs, c'est vrai pour les Israélites, c'était vrai du temps de Jacob, mais c'est vrai pour nous aujourd'hui. Oui, Dieu de toute la terre. Car l'Éternel te rappelle comme une femme délaissée et au cœur attristé, comme une épouse de la jeunesse qui a été répudiée, dit ton Dieu. Quelques instants, je t'avais oublié. C'est-à-dire toute cette période de souffrance qui quelquefois peut nous affliger les uns et les autres, quelques instants. Mais avec une grande affliction, je t'accueillerai Dans un instant de colère, je t'avais un moment dérobé ma face. Tu pleurais, tu me cherchais, tu ne savais pas où j'étais, mais j'étais pourtant là auprès de toi. Mais avec un amour éternel, j'aurai compassion de toi. Dis ton Rédempteur, l'Éternel, mes frères et sœurs. C'est une parole pour vous ce matin. Ceux qui sont heureux, bénissez le Seigneur d'être heureux. Et vous qui êtes malheureux ou malheureuses, bénissez le Seigneur qui vient venir à votre secours. Et il ne vous a pas oublié. Une belle espérance pour les mal-aimés d'aujourd'hui. On se souvient de certains mal-aimés qui apparaissent dans la Bible, qui ont été frappés de disgrâce, comme Léa ou autrement, qui ont été rejetés par leurs semblables et particulièrement par leur famille. Je pense à Joseph. Alors lui, on peut dire qu'il a eu la totale. Joseph. Je pense à Jephté, qui vivait dans la famille, et parce que son père avait fait une faute avec une prostituée, il était nué d'une femme prostituée, et on l'appelait la femme de la prostituée, Jephté, et qui va devenir un juge en Israël plus tard. Dieu ne l'a pas oublié, Jephté. Moi, je pense également à Ruth. Elle, c'était une douleur parce qu'elle avait perdu finalement son mari et ses deux fils. Un peu dur, quand même. Je pense à Méphibosheth, qui était boiteux des deux pieds. Et quand on regardait finalement l'apparence, on disait, il vaut rien, c'est un boiteux. Méfions-nous des apparences, mes frères et sœurs. On risque d'avoir des surprises. Parce que Dieu ne va pas chercher forcément les bien portants, les forts, les super intelligents, ceux qui ont un cerveau à 18 étages. Non, enfin, pour déjà le faire, On n'est pas New York. Mais une chose qui est certaine, c'est qu'on peut avoir des surprises. Et souvent, Dieu fait reposer son trésor dans les faiblesses humaines. Donc, je vous ai dit, Méphibosheth, quand je vous dis la Samaritaine, bon, elle était peut-être pas malade, mais malade de cœur en tous les cas. Quand je vous dis la petite fille qui vivait chez Naaman, qui était prisonnière et esclave, c'est quand même elle qui a donné le message de la possibilité de la guérison de Naaman, naturellement. Toutes ces victimes innocentes, des hommes, de la vie, de l'orgueil. Moi, je vous dis, mes frères et sœurs, prenez courage. Et quelquefois, dans notre vie, nous aussi, on peut passer au service de Dieu, les uns et les autres, quel que soit le niveau du service de Dieu. On peut passer des moments difficiles, mais il faut garder courage, parce que Dieu n'a pas choisi les forts. Il a choisi les faibles pour confondre les forts. Il a choisi ceux qui sont en mauvaise santé pour prier pour les malades, même si eux-mêmes sont jamais guéris. Mais ils ont un ministère de guérison. Et ben voilà. Et puis bien d'autres choses qu'on pourrait multiplier. Ne perdez pas courage, mes frères et sœurs. Vous vous sentez peut-être proche de Léa? Eh bien, le Seigneur a pensé à vous ce matin. Mais il a pensé à vous pas ce matin. Il a toujours pensé à vous, quoi qu'il en soit. Alors moi je dirais, ne pleure pas Léa, ou plutôt, ne pleure pas ou ne pleure plus Léa. Car l'Éternel te rappelle comme une femme délaissée et au cœur attristé, comme une épouse de la jeunesse qui était répudiée, dit ton Dieu. Quelques instants, je t'avais abandonné, mais avec une grande affliction, je t'accueillerai. Mais avec un amour éternel, j'aurai compassion de toi. Seigneur, merci pour ta parole. On va prier quelques instants. Seigneur, je te rends grâce et je te remercie parce que la parole de Dieu, elle est faite pour guérir. Elle est faite pour nous apprendre à aimer. Elle est faite pour apprendre à pardonner. Elle est faite pour nous faire revivre, parce qu'il ne peut pas y avoir, en effet, de compréhension, nous qui parlons de nouvelle naissance. Eh bien, nous parlons de revivre à nouveau. Et Seigneur, nous avons besoin des uns et des autres d'être guéris. C'est vrai, Seigneur. Je te rends grâce et je te remercie pour Léa, parce que, pour moi, c'est une très belle histoire. Une très belle histoire. L'histoire d'un peuple qui souffre, l'histoire dans ce peuple où il y a des hommes et des femmes qui souffrent et qui ont besoin, Seigneur, d'entendre Dieu leur dire « Si tu n'es pas aimé, moi je t'aime » d'un amour éternel. Seigneur, tu passes dans les rangs aujourd'hui. Tu te révèles et tu te manifestes. Nous ne voulons pas faire de manifestations ostentatoires. Mais je crois que dans ce moment, qui précède le repas de Sainte-Cène, où tu nous dis « Prenez ceci en mémoire de moi », et à chaque fois que vous le faites, vous annoncez la mort et la résurrection et le retour du Christ. Seigneur, dans le nom de Jésus, nous voulons te demander que tu passes maintenant, que tu te révèles. Ça se fait dans le silence, ça se fait dans le secret, ça se fait dans la plus grande discrétion. Mais chacun d'entre nous, nous pouvons nous courber devant toi en disant « Seigneur, je ne regarde pas les autres, mais je regarde au fond de mon cœur et moi j'ai besoin de toi, Seigneur Jésus. » Parce que tu n'as jamais rejeté personne. Tu n'as jamais fait d'acception de personne. Tu n'as jamais mis les uns d'un côté, mis les autres de l'autre, là où il y a la foi. Et même si nous avons du mal à aimer, même si nous avons du mal à pardonner, même si nous avons du mal à passer sur certaines choses, eh bien c'est toi qui nous en rendras capables. Et nous voulons te rendre grâce parce que tu n'attends qu'une chose. Devant cet état, tu veux que nous te disions à toi, « Oui, Seigneur, je m'abandonne à toi. Je te demande de faire ton œuvre au plus profond de mon cœur. Et je demande que véritablement je puisse être guéri, que je puisse être soigné, que je puisse être changé, transformé. Et là, tu nous réserves. Comme dans l'histoire de Léa, avec les noms qu'elle a donnés à son fils, plus nous allons en crescendo, plus nous découvrons véritablement la joie et le bonheur. Eh bien, Seigneur, dans le nom de Jésus, tu ne veux pas que nous restions renfermés dans nos prisons. Tu ne veux pas que nous restions renfermés dans nos raisonnements et dans tout ce qui a peut-être pu nous blesser nous-mêmes et avec ces blessures, nous nous blessons encore et toujours. Non, Seigneur, toi tu es venu guérir les uns et les autres, tu es venu guérir tout le monde et nous t'en bénissons et nous te remercions. Oui, Seigneur, je te rends grâce parce que moi je crois qu'aujourd'hui, Léa ne pleure plus. Merci, Seigneur, au nom de Jésus. Amen.
Amen.
Pour écouter d'autres messages audio ou vidéo, retrouvez-nous sur www.add-saint-nazaire.fr.